d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission des chômeurs et précaires. Il est 20h32, nous sommes vendredi, c'est le premier vendredi du mois de janvier 2018. Nous en profitons d'ailleurs pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2018 qui ne sera, j'imagine, pas pire que celle qui vient de précéder, à 2017, qui fut une année un peu catastrophique avec Macron au pouvoir. Rassurez-vous, elle sera aussi pire que la 2017, à mon avis, puisque les choses vont continuer à se dégrader. Nous sommes là pour en parler. Nous parlons donc ce soir principalement du contrôle des chômeurs. En première partie, c'est un gros dossier avec plusieurs sujets sur la question. En deuxième partie, nous parlerons des propos de Castaner sur les sans-abri et également de tout le problème du dégraissement des services publics, car il y a un gros dossier dans le domaine, un gros dossier qui se prépare aussi sur les services publics. Ça va être des milliers de personnes qui vont peut-être se retrouver sans emploi. Enfin, on ne sait pas encore, mais bon, on va en parler en deuxième partie de cette émission. J'ai oublié à tous mes devoirs, c'est bien sûr l'émission de mode d'emploi avec Christophe Ludo au micro.
Bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir à tous les deux. Gilles également. Claude à la technique, comme d'habitude, comme depuis le début de cette émission. Donc nous reprenons le micro pour vous parler éventuellement de ce qui vient de se préparer. C'est le contrôle des chômeurs. La fameuse loi, comment qui sont passées sur la loi du travail,
pas encore. Hein,
parce pas que encore,
ça,
mais.
Non, c'est l'étape numéro 2 après la loi travail. Donc, c'était quand même une promesse de Macron. Alors peut-être qu'on va pouvoir écouter Muriel Pénicaud, avant, qui répondait, je le précise, à France Inter.
C'était hier matin ou la matinale chez Demeurant.
Est-ce que vous allez aller vers un durcissement du contrôle des chômeurs?
De quoi on parle? La très grande majorité des demandeurs d'emploi, ils n'ont qu'un but.
C'est d'en retrouver un.
Retrouver un emploi et, j'allais dire, avoir la dignité d'être fier, j'allais dire, la fierté de vivre de son travail. Parce qu'un emploi, c'est pas simplement une rémunération, c'est aussi une fierté, c'est un lien social, c'est se sentir utile, enfin, bref.
C'est 99% des gens, ça?
À peu près les 250 000 contrôles qu'a fait Pôle emploi, c'était 86% des gens qui cherchaient très activement un emploi. Parmi eux, il y en a qui ne cherchaient plus, mais parce qu'ils étaient découragés. Donc ça, on le prend en compte. Faut pas. On peut aussi avoir des pépins de la vie, avoir un moment donné où on cherche plus bien. Mais bon, ça, il faut pas que le contrôle soit bureaucratique. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça soit humain et que ça prenne en compte la situation réelle des gens. Mais on a quand même trouvé 14% des gens, ce qui n'est pas très étonnant, qui eux n'avaient aucun problème de découragement, avaient des compétences qui étaient tout à fait accessibles sur le marché du travail, qui cherchaient pas et bénéficiaient de l'assurance chômage. Bah, l'assurance chômage, c'est l'argent qui vient des cotisations des salariés, des employeurs et ça vient aussi de l'État. C'est comme l'URSSAF. C'est normal qu'il y ait du contrôle. Simplement, comme je le disais, le contrôle doit être bien fait. Alors simplement qu'on fait un contrôle.
Il va être durci ou pas alors les barèmes ensuite sont très importants.
Qu'on fait un contrôle.
Les 14%
qu'est-ce qui se passe? Qu'on fait le contrôle. Bah d'abord, on découvre au passage ce qui s'est passé, qu'il y avait des gens qui étaient découragés. Donc du coup, ça permet de refaire des programmes pour les aider à, j'allais dire, rechercher activement de l'emploi. Donc le contrôle parfois amène à plus d'accompagnement, pas forcément une sanction.
Et pour la sanction.
Et pour ceux qui sont les fraudeurs, mais je parle de fraudeurs là. Bah, pour les fraudeurs, aujourd'hui, il y a plusieurs types de sanctions et c'est un peu étrange. C'est-à-dire, si vous rendez pas une convocation, un rendez-vous, vous pouvez être suspendu pendant 2 mois. Et par contre, si vous cherchez pas de travail, vous pouvez être suspendu pendant 15 jours. Donc, on va remettre de l'ordre de tout ça pour que ça soit plus logique, plus cohérent. Et encore une fois,
plus
d'accompagnement pour ceux qui cherchent l'emploi.
Décrivez-nous ce que ça donnera.
J'ai demandé aux partenaires sociaux
vous avez bien une idée, madame la ministre.
J'ai demandé aux partenaires sociaux et voilà. J'attends leurs propositions pour début février.
Vous leur soumettez quoi comme sujet de dissertation?
Soumets que nous devons à la fois mieux accompagner plus vite, parce que quand un demandeur d'emploi, c'est pas au bout de 6 mois.
La punition, ce sera quoi la nouvelle échelle de peine?
Et pour les fraudeurs, il faudra renforcer les sections et puis pas que la main tremble pas quand pour les fraudeurs. Mais c'est très intéressant, vous savez, les 14% là, il y a très très peu qui se sont réinscrits, donc ils savaient qu'ils fraudaient.
Oui, donc ce passage pour vous exprimer un petit peu ce qui est dit au plus haut niveau de l'État. Je pense qu'elle botte un petit peu en touche, la ministre, pour répondre aux questions de Meurant.
Ah oui, on l'entend clairement, puisque oui, effectivement, il essaye de la pousser. Ça va donner quoi? Bon, bah oui. Alors, on va voir avec les partenaires sociaux. Bon, enfin, on va pas se leurrer. Hein, tout est écrit d'avance ou presque, parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sanctions existent déjà en réalité. Puisque aujourd'hui, hein, quand vous ne répondez pas à une convocation de la NPE,
vous êtes radié 15 jours.
Voilà, exactement, jusqu'à 2 mois. Et puis, il y a aussi des sanctions en cas de récidive. Et ça, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, c'était une expérimentation à la base qui avait été menée, jurait-il, dans leur grand Dieu, sans qu'il y ait d'effet de sanction prévu par la suite. Hein, c'est ce qu'ils avaient promis. Et donc, ils ont détaché spécialement des agents de Pôle emploi pour le faire. Et donc, maintenant que l'expérimentation a eu lieu, qu'ils ont ce chiffre mirobolant de 14%.
On sait pas comment
sait même pas si l'étude porte sur les chômeurs indemnisés, oui. On l'imagine, hein, parce que il faut quand même rappeler que si vous ramenez ça aux chômeurs non indemnisés, un chômeur sur deux est non indemnisé.
Donc ça fait 7% pour le coup.
Voilà. Alors, je sais pas, mais en tout cas, je veux dire, c'est bien derrière une idée comptable qu'il y a, parce qu'en réalité, ça fait un nombre infime de chômeurs. Et juste pour rappeler les montants, parce que tout de même, l'UNEDIC, elle a les montants de la fraude. Elle parle de la vraie fraude, hein, des vraies arnaques. Les montants représentent 58 millions sur un volume de 33 milliards. Oui. Donc ça fait 0,6% des montants. C'est-à-dire rien du tout. Alors évidemment, on sait très bien ici que la fraude la fraude aux allocations, entre guillemets, comme on dit, est bien sûr très nettement inférieure à la fraude fiscale. La fraude fiscale, pour vous donner une idée, c'est 3,4 milliards d'euros juste en fraude, et quand on passe à l'évasion fiscale, c'est 60 milliards. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes proportions, mais le gouvernement, pour lutter contre l'évasion fiscale, a préféré supprimer l'ISF et baisser l'impôt sur les bénéfices des sociétés plutôt qu'éventuellement taxer les fraudeurs. Mais en revanche, il va évidemment sanctionner ceux qui ont une misérable petite allocation de remplacement. Et puis un autre chiffre en fait qu'il faut connaître, c'est que toute allocation confondue, le non-recours au droit s'élèverait à 12 millions d'euros. Donc je ne sais pas si vous imaginez en fait le gouffre, en fait l'écart que se représente entre ce que je dis 12 millions, je crois que c'est 12 milliards d'euros, ça c'est un peu énorme,
c'est
énorme,
donc c'est 12 millions, je pense.
C'est 12 millions d'euros, et donc en fait on voit bien que la sanction sur des chômeurs, sur un chômeur sur deux qui est indemnisé, c'est une sanction qui est avant tout punitive. Voilà.
Je crois qu'il y a également dans ce projet, en tout cas, qui va être discuté par les partenaires sociaux. Avant, il y avait sous Sarkozy, je crois que c'était, il avait opté sur trois offres valables d'emploi. Là, il passe à deux. Donc, en fait, ils en retirent une sur les trois. Hein, voilà. Donc, c'est simplement pour dire qu'ils font de la nouveauté, mais en fait, c'est la même chose, quoi.
Qu'est-ce qu'une
offre valable d'emploi?
Alors, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'une offre raisonnable d'emploi, maintenant, elle est dans le code, hein. Donc, elle est légiférée. Donc, une offre compatible, et c'est d'abord une offre compatible avec la qualification et la compétence professionnelle. Et c'est une heure. Elle est simple. Ça, c'est pendant 6 mois. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, le chômeur peut accepter des offres d'emploi moins qualifiées que ses compétences professionnelles. Oh, mais 6 mois, c'est assez vite passé. Alors, offre de salaire, c'est égal pendant 3 mois. Au-dessus de 3 mois, c'est 95%. Au-dessus de 6 mois, c'est 85%. Et passé un an, c'est à hauteur des allocations chômage. Sachant qu'aujourd'hui, 2/3 des chômeurs sont des chômeurs de plus d'un an.
D'accord.
Voilà. Donc effectivement, alors 1h30, aller simple, c'est-à-dire, ça fait, 1 heure, aller simple, ça fait 2 heures, aller-retour de trajet, donc, au maximum. Voici.
Très bien, Ludo. Merci. On va écouter la deuxième partie de cette émission. Donc, c'était hier matin, à la matinale, sur France Inter. On écoute.
Raphaël sur Twitter dit la chose suivante. Madame Pénicaud ment dans Interactive. 60% des 14% des chômeurs sanctionnés ne touchaient déjà plus aucune allocation. Pardon. Christelle sur l'application France Inter. Madame la ministre oublie de dire que sur les 14% de fraudeurs, seulement 60% sont rémunérés par Pôle emploi. Il faut être exhaustif quand on donne une information.
Ah, je peux donner tout le rapport entier. Il y a aussi plein d'autres enseignements dans ce rapport. Je pense que...
Mais vous contestez ces chiffres ou pas? C'est-à-dire d'une minorité, de minorité, de minorité.
Mon sujet, c'est pas... Comment dire? Le débat, les chômeurs, enfin, c'est un débat de fou. Ça a aucun sens de dire que des... S'il y en a qui pensent que la majorité des chômeurs, ils cherchent pas un travail, ils se trompent complètement. Voilà, c'est moi.
C'est ce que les auditeurs vous disent.
Oui,
ça.
Mais je suis d'accord avec ça. Bah, c'est absurde.
Après, mais c'est sur les 60% des 14%, la minorité de la minorité.
C'est un contrôle juste sur 250 000 personnes. Moi, je sais pas le nombre de fraudeurs. On verra bien. Et j'allais dire, c'est pas un sujet budgétaire, c'est un sujet de justice, d'équité. Par contre, l'essentiel des efforts de Pôle emploi, il doit permettre d'accompagner. Et encore une fois, le fait d'avoir une discussion plus tôt. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, souvent, la formation, on la propose qu'au bout de 6 mois. Alors, c'est ça qui va permettre de trouver un emploi. Il faut être beaucoup plus en amont. Et par contre, pour ceux qui, derrière, en fait, ne sont là que pour profiter du système, il n'y a pas de raison qu'ils y restent.
Alors, c'est très fort parce que justice et équité, avec Macron et son gouvernement, on attend de voir un peu le résultat.
Justice et équité, effectivement, donc 14%, mais dont plus de la moitié, 60%, ne sont pas indemnisés. C'est donc ça. C'est-à-dire des réellement gros fraudeurs qui sont ça sur un volume total de 3,5 millions. Donc, alors là, on a vraiment l'hypocrisie de ce type de discours. Et pourquoi, je veux dire, il y a quand même des auteurs qui commencent à dénoncer la bureaucratisation de Pôle emploi.
Absolument.
Donc, nous ici, ça fait des années qu'on parle de, non pas de contrôle social, mais de contrôle administratif. C'est-à-dire que Pôle emploi, voilà, les agents de Pôle emploi sont débordés, ils ont un nombre de portefeuilles et d'allocataires à recevoir qui sont tellement énormes qu'ils n'arrivent même pas à les recevoir. Et on a une ministre qui nous parle d'un meilleur accompagnement. Ça va favoriser l'accompagnement. Et là, on se demande, ah bon, et comment ils vont faire? Est-ce que... D'abord, peut-être qu'avant de les accompagner, il va falloir les recevoir, parce qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant simplement pour être reçu et pour pouvoir s'inscrire à une formation. C'est devenu très, très compliqué, en fait, du fait d'une espèce d'anarchie qui règne dans cette administration. Et en plus, on se demande, pour le moment, avec quels moyens, hein, qui va prendre en charge. Et puis, s'il s'agit simplement de l'administration de Pôle emploi, ça va quand même être très compliqué. Et donc, voilà, on a tout ce discours qui consiste symboliquement à essayer, parce que finalement, on peut penser que c'est quand même une mesure qui est de communication politique, de dire au bon peuple, il y a des fraudeurs, attendez, on s'en occupe.
Oui, on s'occupe que des fraudeurs d'en bas, on s'occupe pas des fraudeurs d'en haut, pour le coup.
Les fraudeurs d'en haut, on les exonère.
Exactement. Christophe, tu avais un petit peu étudié ce problème de fraude au niveau de...
Je vous arrête.
Les sanctions, c'est quoi alors?
Bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, je vais parler d'un article qui a été fait dans Atlantico, qui est un article imaginaire, mais c'est très drôle. Parce que, en fait, chers auditeurs et auditrices, vous n'avez pas saisi la pensée complexe du contrôle des chômeurs. Rien compris. Non.
On a essayé, hein, pourtant.
Voilà, vous essayez, mais vous ne connaissez pas la face émergée. Vous ne voyez que la face émergée de l'iceberg.
Toujours.
Parce que, le contrôle du chômage, ça permet de créer des nouveaux emplois très qualifiés. Enfin, y penser pour dynamiser l'économie et mettre fin au chômage en le pérennisant. Alors, je peux vous donner une explication. Imaginez que dans le cadre du contrôle du chômeur, on demande des preuves de recherche d'emploi effective. Vous inventez un nouveau métier pour prolonger ses droits aux indemnités chômage. Moi, Alexis, je viens d'être recruté par des chômeurs, un collectif de précaires. Après avoir aligné plusieurs stages dans la presse web, je fais un travail d'éditeur assez classique. Relecture, correction des coquilles et fautes d'orthographe, réécriture de certains passages. À l'arrivée, le chômeur a un rapport bien rédigé. Il peut ainsi gagner un sursis, prolonger ses droits. On me demande aussi d'éditer des rapports en écriture inclusive pour éviter qu'une conseillère Pôle emploi se sente discriminée. Et peut lui se créer ses allocs, la radiation de ses droits. C'est un nouveau métier, ça, correcteur de rapport. Il y a mieux, grâce à la pensée complexe et les génies du contrôle du chômage, pas les causes, mais c'est le contrôle qui est important, hein. Les causes, les solutions, on n'est pas à en parler, parce qu'il faut communiquer, son rapport. Donc, une agence de communication, Certains disent, nous éditons régulièrement des rapports d'activité de grands groupes, dont certains du CAC 40, hein, témoigne Valérie, directrice éditoriale d'une telle agence d'accueil. C'est donc un métier qu'on connaît bien, et puis on peut proposer une prestation complète, très personnalisée, qui comprend une chaîne créative, des interviews, un script, un editing, de l'imaging, de la traduction en anglais. Nous achetons aussi des espaces dans la presse, c'est bien pour parler des chômeurs, mais c'est dans le cadre du contrôle, c'est important de communiquer. Hein. Il y a aussi le rapport millénial. Est-ce que vous savez ce que c'est que le rapport millénial? Ben, c'est un nouvel emploi lié au chômage. Hein. On vient du web, du e-learning, du e-comprehending. Donc on produit des rapports avec des supports Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram. Une machine sur Mythic. Je fais mon contrôle, ne me radis pas, tu es toujours dans mon cœur. C'est pas, elle est pas belle la vie. On peut avoir aussi, c'est très important dans le cadre du marketing, l'influence et le reputation. Le reputation, hein, c'est, je suis spécialiste de la réputation de détail, Annabelle. J'interviens pour aider des chômeurs à améliorer leur score dans des outils de type Recruit. Par exemple, je trade un rapport d'activité, fais en sorte qu'il obtienne beaucoup de RT. En fait, j'ai du vrai reporting dans les pages web. Comme ça, on peut communiquer et je deviens un chômeur influent qu'on peut écouter. Ça, dans la galaxie Macron, la communication du report trading, c'est important. C'est important, non mais c'est un marché. Hein, parce que apprendre aux chômeurs à devenir leur propre marque dans un monde libéral, hein, alors que cela suppose des valeurs, d'ancrage, de puissance créative, ça permet de se positionner sur une offre d'emploi forte. Hein, l'image, c'est important. On a aussi la nécessité de séduire le lecteur, hein, quand on lit des rapports de Pôle emploi dans le cadre du contrôle. Hein, vous savez, oui, imaginez un pauvre conseiller Pôle emploi... Écrivain public, c'est un métier. Hein. André propose des prestations de scénarisation de ses rapports. Hein. Un rapport de contrôle de chômage, j'ai fait telle recherche d'emploi, monsieur. Combien c'est passionnant, mais un rapport, ça peut. André, écrivain public, l'assure, un rapport, ça peut faire rêver. Rien n'est plus triste qu'un alignement de dates, de faits. Si votre texte est vite oublié, c'est qu'il n'est pas intéressant, puis voilà tout. Il y a un processus de réappropriation du rapport de ses recherches d'emploi. Ça peut commencer par quelques pages qui décrit le café du matin. C'est important, ça, lorsqu'on est devant son CV. C'est dans un style très nouveau roman, ou alors une mise en scène distancée façon Emma et Léon. Vous savez, Léon, celui qui sait pas lire et écrire, mais qui fait de la dérétisation par obligation humaine. Hein. Tu sais, le film de Besson, tu vois, c'est un autre style, tu vois, c'est... J'étais prêt à être carcérisé et là la lumière jaillit, c'est formidable. Mais, tu sais, hein, y a Diane qui est une écrivaine publique, quand elle est fan d'Alexandre Dumas, elle dit qu'écrire un rapport comme un feuilleton, j'en ai déjà écrit des centaines, hein, et j'ai déjà pas décroché moins d'entretien. Par contre, j'ai une force du vivant, de l'instantané, de la véracité, de l'authenticité dans mon rapport remis au contrôleur Pôle emploi.
Ah oui. Je te verrais bien contrôleur Pôle emploi parce que là, tu, je suis sûr que tu redynamiserais à tout le monde. Hein,
eh ben oui, alors excellent. Comment, quel nouveau métier grâce au contrôle de chômage on peut faire pour redynamiser les conseillers Pôle emploi? Parce que aussi, il faut communiquer. Hein. C'est la sphère, la communication, c'est important. Et oui, mais, mais il y a quelques années, j'ai fondé une agence d'alibi pour adultère. Maintenant, grâce à Pôle emploi, je peux me diversifier et proposer des pactages complets de fausses recherches d'emploi. Je crée des sirettes, des rendez-vous fictifs, je trouve des interlocuteurs.
Mais les chômeurs, ils ont de quoi payer pour ça?
Ah, mais je peux faire des prix. C'est un nouveau marché. Il y a des rapports distanciés aussi, tu sais. Je suis senior advisor on personal branding pour Job Sales People, relate Kevin. J'ai une double formation de comédien et publiciste. Un de mes, beaucoup de clients ne peuvent pas se dépasser parce qu'ils profitent de leur vocation aux Bahamas. Mais moi, je peux porter des messages comme devant le conseiller pour emploi. J'ai très souvent un grand... J'évite le cyberharcèlement. Et puis grâce à ma tchatch, à ma façon de réseauter, je suis très souvent profitable aux clients. Alors, mais attends. Et Pôle emploi aussi, ils ont droit à leurs prestations dans le cadre du contrôle des chômeurs. L'agence récupère des rapports et les scénaristes sont en court format audio. Et puis, t'as les rapports connectés, faits par la sélection du Radar Digest. Voilà une plateforme et un marché nouveau. Et t'as le postier aussi, qui peut être une aide pour le contrôleur Pôle emploi, ou inversement, il a perdu le courrier. La poste fait foi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais, hein. Puis alors, chômeur, ça va devenir un vrai métier, tu vois. T'imagines Alexandra, ancienne inspectrice à la DCRI. Et oui, mais elle, sa spécialité dans le cadre du terrorisme était de frauder et de d'analyser la vraie et les fausses informations. Elle, tu leur mets des rapports, elle peut analyser les choses. Et donc, elle peut correspondre à une niche et à un emploi porteur qui dynamise la créativité et le rapport au monde du travail de Pôle emploi. Donc, c'était un monde idéal. Merci de votre attention.
Mais tu peux dire d'où c'est tiré, de l'Atlantico, donc. D'accord.
Ouais, excellent article d'Atlantico.
Merci Christophe, c'est vrai que ces nouveaux métiers font plaisir à entendre. Enfin bon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On a envie de payer pour être formé au consulting, je sais pas quoi.
Off control.
Un peu sérieusement, on va oui, Ludo.
Ouais, non, je voulais juste dire parce qu'effectivement, on a quand même, on peut se demander au vu de ce qui est dit là, si et puis au vu de ce qui se profile en termes de réforme d'État, si à terme on ne va pas vers une privatisation de la formation pour les chômeurs.
C'est exactement ce qu'il est en train de dire.
Exactement. Et du coup, bien que ceci coûte beaucoup plus cher en fait en réalité que ce que le suivi, le moins suivi qui est fait actuellement à Pôle emploi. Et donc, où ils vont...
Allez, Alexandra, ancienne de la DCRI, vous arrête tout de suite et vous tweet. Mon reporting en e-learning assure une zone d'influence et de prestation du clic sans égal.
Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut bien penser que notre maître à tous, j'ai nommé Pierre Gattaz, a quand même déclaré qu'il était favorable à un contrôle journalier ou hebdomadaire ou mensuel des chômeurs.
Bon. Oui, mais le Pierre Gattaz, je tiens à te rassurer, il est un peu dérangé en ce moment, donc il est abonné absent.
C'est possible, mais enfin, ça reste quand même visiblement une demande du patronat. Et la vraie question qu'on peut se poser derrière, en fait, c'est de savoir si finalement l'idée, c'est quand même pas de permettre aux chômeurs d'accepter n'importe quel emploi, au sens où, effectivement, on parle des fameux emplois en tension, ce qui est en réalité des emplois où il y a une forte rotation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vacants, les fameux emplois vacants, hein. C'est pas des emplois qui sont vacants en permanence, c'est des emplois où les salariés ne restent pas, ou en raison de la pénibilité, ou en raison du fait que ce soit mal payé. Entre autres, bien sûr qu'il y a des secteurs où il y a un manque de formation.
Tout à fait. Donc, merci pour la transition, parce que là, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, quand on regarde à l'étranger, aux États-Unis, je crois qu'ils sont à un taux de 4% de chômeurs, 4 ou 5% en Allemagne. En Allemagne, justement, Ludo, je crois que tu avais regardé un peu la situation. En Allemagne, ils sont à 5% ou 4%, je ne sais plus. Et voilà, les emplois, donc il y a beaucoup plus de gens au travail, mais quel genre de travail ils ont, pour le coup?
Alors, justement, donc là, c'est une question intéressante, parce qu'effectivement, le modèle de rêvé de M. Macron, c'est l'Allemagne. Alors, officiellement, l'Allemagne est à 5,5% selon les statistiques nationales, 3% selon l'OIT, qui a des critères plus restrictifs. Donc, vous me direz, c'est fabuleux. Sauf que, et beaucoup de gens sont d'accord en fait sur cette question, c'est qu'en réalité le nombre d'heures de travail n'a pas progressé depuis 1994, pardon, et que ça, et qu'on constate aussi la même évolution en France. Ce qui revient à dire qu'en réalité, l'Allemagne a fait son partage du travail, non pas par la loi, mais par la rémunération. C'est-à-dire que les temps partiels ont explosé en Allemagne. Alors, je précise hein, que le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne est de 22%, contre 8% en France, donc avec un taux de chômage, hein, on l'a vu, de 5,5%, et que les temps partiels représentent 27,5% de l'ensemble des salariés. C'est 9 millions de personnes.
C'est énorme.
Or, ça n'a cessé d'augmenter au cours de toutes ces années. En octobre 17, ils avaient augmenté de, au total, hein, depuis, au 42%, ils représentaient 42% des créations d'emplois qui étaient à temps partiel. Donc c'est vous dire. Évidemment, sur les 9 millions, il y en a la moitié, 3 millions, qui souhaitent travailler plus. Donc c'est bien du temps partiel subi. Alors du coup, là, la tendance commence légèrement à s'inverser parce que sous l'effet de la croissance, le taux d'emploi, de plein emploi augmente. Enfin, c'est une tendance qui n'a fait que s'accentuer dans des proportions extrêmement importantes dans toute la décennie. Hein. Alors du coup, ce qui se passe aussi en Allemagne, c'est qu'il y a eu une modération salariale, mais une modération salariale qui a touché le bas de l'échelle. C'est-à-dire le premier cinquième des bas salaires. Donc entre 2002 et 2015, le niveau des rémunérations, en inflation comprise, donc, a reculé de 15%. il a légèrement remonté avec la création du SMIG à la fin de la décennie. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, 8% des actifs touchent une allocation chômage, donc y compris ceux qui travaillent, donc à temps partiel. C'est la fameuse Hartz 4, et le chiffre était encore en hausse en 2017. Et puis, il faut aussi compter le sous-emploi. Donc, le sous-emploi en Allemagne, c'est les arrêts maladie ou des stages de réinsertion. Ça représente 7,8% de la population active. Ce qui fait dire à la Banque Centrale Européenne qu'il faudrait calculer un taux de chômage caché pour ces pays. C'est la Banque Centrale Européenne qui le dit. Un taux de chômage caché, du fait du temps partiel, qui multiplierait par deux le taux de chômage actuel. Alors vous me direz, vive le miracle allemand, et en France ? Eh ben en France, on a 9%, 9,5% de chômage, on a une population en CDI qui est stable, un nombre d'indépendants qui reste stable, malgré la tendance idéologique qui voudrait que le nombre de créations augmente, mais malheureusement, ça reste stable. Et on a une multiplication des contrats courts. Donc en France, ce qui explose, en fait, c'est les contrats précaires. C'est-à-dire de gens qui n'arrivent pas à se stabiliser. Donc la fameuse rotation sur les postes dont on parlait. Et donc une augmentation de la précarité, ce qu'on appelle nous, entre autres, l'emploi en miettes. Entre autres, bon, c'est pour parler aussi des temps partiels, des temps éclatés. Voilà. Et donc la question est de savoir, parce que vous avez tous vu que M. Macron remontait dans les chômages, il remontait dans les chômages
dans
du
les
fait...
Chômages, dans les sondages.
Dans les sondages, pardon, merci Christophe. Et qu'il remontait dans les sondages du fait de la bonne santé de l'économie. Alors, vous avez tous constaté que ici, autour de cette table, que l'économie s'améliore. Et oui, que les prévisions de croissance sont bonnes. Et donc, la vraie question, c'est de savoir si oui ou non, ça va faire baisser le chômage. Certains pourraient répondre, avec la suppression des emplois aidés, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas l'argument principal qui fait que on risque d'avoir un taux de chômage qui ne baissera probablement que très très peu. C'est qu'en France, et d'après les prévisions de l'INSEE, ce qui va augmenter aussi, c'est la productivité du travail. Parce que c'est ce paradoxe, c'est qu'on prend le modèle allemand comme exemple, mais qu'en fait en France, on est extrêmement productif, semble-t-il. Exactement. Et pourquoi on est extrêmement productif ? Bon, apparemment, effectivement, il y a des tas de raisons, mais il y en a peut-être une, c'est que embaucher est un problème, selon les libéraux. En tout cas, une augmentation de la productivité, ça veut dire que on embauchera peu. Et donc, le chômage va-t-il baisser en France ? Rien n'est moins sûr.
Merci Ludo. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose ?
Moi j'ai un article par rapport à la thématique donc d'Atlantico par rapport à ce qu'il dit, mais j'ai d'autres éléments aussi. C'est en fait là on parle sur la notion du contrôle des chômeurs et l'interview de Muriel Pionico. Et la question qui se pose c'est en fait quelle est la part de chômage choisi et quelle est la part de chômage subi. Et là, il y a un article intéressant donc cette semaine dans Atlantico. C'est un débat entre deux personnes et on voit bien ces deux visions du monde, mais c'est la conclusion qui est intéressante. La première personne, c'est Eric. Je l'écorche peut-être. Il a un nom un peu complexe. C'est Eric Verhage. Eric Verhage est fondateur du cabinet Parménide et président de Tripalio. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il est l'auteur de Faut-il quitter la France, mais il est surtout diplômé de l'ENA. Et titulaire d'une maîtrise de philo, et puis surtout de la fameuse promotion Copernic, qui est une promotion très très libérale. Et puis en face, on a un deuxième interlocuteur, qui est pas n'importe qui est Eric Heyer, c'est le directeur du département d'analyse des prévisions depuis 2015 à l'OFCE. Alors l'Office français de la conjoncture économique, donc lui c'est en gros c'est le mix. Tu m'arrêtes si je me trompe, Ludovic, c'est le mix entre la DARES, c'est les chiffres du ministère du Travail, et les chiffres de l'INSEE, mais encore en plus approfondi, encore plus poussé sur le plan économique. C'est un peu ça.
Ils sont très keynésiens, de toute façon.
Voilà. Notre cher Reynard dit, c'est de la faute aux Français si on a un taux de chômage de 9,5%, parce qu'en fait, on a beaucoup, il dit, je le cite, on a ce qui relève de la désincitation au travail, ce qui relève du contexte économique. Et pour lui, le taux de chômage de la zone euro est passé sous la barre des 9%. Il était à 8,8% en octobre 2007. Il est proche de 9,5% en France. Et on peut donc en déduire que l'excédent de chômage en France provient en zone monétaire unique d'une différence de traitement de chômeurs. C'est-à-dire, en gros, les chômeurs ont des conditions d'alignement et de droits sociaux et de rémunération beaucoup trop élevées. C'est un peu ce qui sous-entend. Alors que dans l'interview de Muriel Pénicaud, on apprend qu'il y a près de 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Hein. Voilà. Donc c'est quand même un peu paradoxal que ce monsieur-là. Et d'un autre côté, le point de vue de Eric Heyer est complètement différent. Et bien, il dit, en fait, si on voudrait, selon les chiffres de l'INSEE, hein, un emploi durable, hein, d'au moins 24 heures par semaine, hein, il faudrait qu'on ait un taux d'emploi de chômage d'environ 5-6%. Et parce que en fait, le fait quand il y a trop de chômage, ceux qu'on pénalise le plus, hein, c'est ceux qui cherchent vraiment un travail, avec la grande majorité des chômeurs, une très très grande majorité, et qui du fait de l'absence d'offres sont dans des réalités très macro et microéconomiques très très différentes. Et en fait, ce discours de chômeurs fainéants vient du fait, hein, c'est ce qu'il explique, que la génération de l'après-guerre, ceux qui ont connu entre guillemets les 30 glorieuses, hein, où on nous baratine en longueur de journée qu'à cette époque-là, on travaillait 48 heures par semaine, mais pas du tout avec la même productivité, pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas le même niveau d'industrialisation de robotique et d'informatique, hein, ça n'existait pas, hein, dans les années 50, la robotique et l'informatique dans les industries. Et ben, pour les plus de 60 ans et plus de 65 ans, qui n'ont connu que le plein emploi, il est complètement aberrant. Ils ne comprennent pas que la génération de leurs enfants ou de leurs petits-enfants soit au chômage. Et c'est sur cette réalité sociale que ça met tout ce contexte de contrôle du chômeur, de culpabilisation par rapport à l'approche au travail.
Oui, enfin, ceci dit, le président de la République, il a 40 ans.
Oui, c'est vrai.
Il était nard.
Je pense, ouais, exactement. Et je pense que le haut de la société, lui, oui, a une vraie méconnaissance de ce qu'est le chômage. Oui. Sans aucun
doute. Il était nard.
Oui, voilà.
Voilà.
C'est ce que je.
Merci, messieurs. On va écouter une petite chanson. On prend la parole par la suite. Merci.
À mourir, pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir, pour partir, je ne veux. Pour mourir, je ne veux pas attendre et partir pour partir. Je choisis l'âge tendre.
Oui, bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires, avec Ludo, Christophe et Gilles au micro.
Rebonsoir.
Rebonsoir à tous les
bonsoir.
Deux. Et bien sûr, Claude à la technique. On reprend cette émission pour parler évidemment d'une chose qui nous fâche un petit peu, mais on va peut-être en parler plus précisément. C'est la rupture conventionnelle collective, un tout nouveau machin qui vient d'arriver et qui permettra donc au patron de licencier sans être mis au prud'homme, j'imagine bien. Donc Christophe, tu étudies un peu le sujet.
Déjà, je rappelle à nos chers auditeurs et éditrices que ça fait partie du package de la loi Travail 2 et des ordonnances, c'est-à-dire des choses qui ont été ratifiées sans débat par le gouvernement élu actuel. Donc le groupe, la conséquence de ça, je vais vous raconter une anecdote qui est absolument aberrante, mais qui pose un problème en termes de perspective économique, mais aussi d'idéologie. C'est-à-dire que c'est peut-être le témoignage d'un délégué syndical, on va dire que c'est partisan, mais c'est un fait concret, c'est aberrant. Donc voilà, donc c'est Jean-Pierre Mercier de la CGT PSA, hein, c'est un article que j'ai trouvé dans les Inrocks, hein, merci à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? La rupture conventionnelle collective, c'est un accord de branche qui permet à dire à 100 personnes, 200 personnes, sans passer par la case justice, je résume, merci pour le bon moment, au revoir.
Avec un recensement, avec un accord, paraît-il.
Avec un accord. Donc le groupe PSA a convoqué les syndicats de l'entreprise le 9 janvier dernier, en vue de négocier une rupture conventionnelle collective. Et donc leur représentant, c'était Jean-Pierre Mercier de la CGT, on le salue par ailleurs. Et il dénonce, quoi? Tout simplement des suppressions de postes complètement injustifiées. Il a été donc convoqué avec les autres syndicats, représentants syndicaux à négocier. Et voilà ce qu'il dit. C'est quoi la rupture conventionnelle collective? Ça permet de simplifier la suppression des emplois pour l'employeur. Ça lui fait gagner des avantages financiers, hein, parce qu'il il paye pas, il est pas taxé au niveau des bonus-malus de la précarité, il donne moins de congés restants, de soldes de tout compte, tout ça. C'est tout le contraire de la lutte contre le chômage de masse, en fait, il rappelle ce monsieur. Et puis ça permet de supprimer des postes sans avoir recours au motif du licenciement économique. C'est-à-dire que, en termes de droit, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ben, ils mettent la nez dedans, c'est vachement bien. Hein. C'est vraiment une loi qui est faite sur mesure pour les employeurs. Qu'ils fassent des bénéfices ou pas. Et puis alors, bah Jean-Pierre, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Hein. Là, on a l'exemple concret d'une politique anti-emploi et anti-industrielle, hein, puisque notre groupe, qui est une entreprise du CAC 40, qui fait des milliards de bénéfices, elle a attendu que le décret d'application soit sorti au journal officiel le 8 janvier.
Et le 9, elle
est... Pour nous convoquer le 9. Et il dit ben voilà hein, quand il y a une possibilité de gagner de l'argent et de récupérer quelques pour moins donner aux salariés ben que fait le groupe Peugeot hein, sachant que les gens qui la famille Peugeot est richissime hein, la famille Peugeot même si elle est minoritaire dans le capital elle
est minoritaire ouais, mais non,
même si elle est minoritaire on parle de multimillionnaires hein.
Ouais, c'est les actionnaires chinois aussi qui sont
oui mais je veux bien être un actionnaire héritier de la famille Peugeot il y a pas de souci.
Moi ça m'intéresse pas hein, je te dis
oui enfin bon voilà. On peut avoir un débat, non, mais un des héritiers de la famille Peugeot.
Il y a beaucoup d'héritiers de la famille
voilà,
Peugeot.
Voilà, en plus d'aparté, il y a trois ans.
J'ai pas envie de partager avec les autres, moi.
Voilà, il y a trois ans, c'est fait.
Non, mais je veux dire, c'est une logique comptable. Voilà, c'est une logique comptable. Quelque part. Hein. C'est-à-dire, effectivement, les actionnaires qui ont misé, quoi.
Juste une question, Christophe, parce que j'ai entendu à la radio il y a pas longtemps que Peugeot, ou je l'ai vu dans la presse, je ne sais plus, que Peugeot faisait des grands bénéfices.
Oui, tout à fait, mais là, je vais donner une précision.
Ils étaient sur les 6 mois à venir en train
tout à fait, c'est
de relancer la...
Oui, une redynamisation du marché de l'automobile du fait des inventions liées à l'hybride et au développement durable et au mélange essence économique.
Alors, je comprends pas pourquoi il est censé alors qu'ils vont avoir besoin de l'œuvre.
Parce que ça permet de mieux rationaliser les coûts et donc de faire de plus grands bénéfices pour l'actionnaire. Hein. Donc, sans justification précise, qu'a fait Peugeot.
Et alors, PSA, c'est pas des intérimaires. Hein.
Non, non, ils ont supprimé 25 000 emplois en CDI en France. Boum, c'est énorme. Hein. Dans ces usines, dans ces bureaux, alors que la production nationale de leurs voitures est passée de 860 000 à 1 million de véhicules. Tout ça s'est fait à coup, bien sûr, comme d'habitude, avec la rupture conventionnelle de licenciement sec, mais aussi de pré-retraite, de volontariat et tout ce, et ou alors, bah, quand les ingénieurs ou techniciens n'acceptent pas, ils sont plus ou moins mis au placard, on leur demande, ou alors on les licencie pour inaptitude physique, enfin, tout le florilège de la douceur du monde du travail, donc, et on a fait quoi? Eh bien, devinez quoi? On a pris plein de boîtes intérimaires et plein de contrats courts d'un mois ou deux. Donc, c'est bien joli de pousser en dehors des CDI, dit Jean-Pierre Mercier, mais il faut faire des bras pour tourner les chaînes de production et des bureaux d'études. Hein. On a de plus en plus d'intérimaires, mais on est en nombre inférieur à celui de CDI éjectés d'usine. Par conséquent, il y a une surcharge de travail pour les salariés en CDI, parce que eux, ils maîtrisent les chaînes de production. Ils ont un savoir-faire, une compétence qui est... C'est affiné avec cette expérience. Et puis, sur certaines chaînes de production, il y a parfois 90% d'intérimaires. Voilà où on en est arrivé. Ce qui fait que, au final, un salarié coûte moins cher et a moins de droits. Et puis, il dit, mais clairement, ce monsieur, j'espère que je milite tous les jours pour ça, que les chômeurs vont être contrôlés comme des délinquants. Et moi, j'aimerais bien qu'on contrôle les patrons et qu'on les sanctionne pour tous leurs abus. Et qu'ils arrêtent de supprimer des emplois alors que ces boîtes-là font des bénéfices à n'en plus finir. Et puis dirait, moi j'aimerais bien un mai 2018 en référence à mai 68. Ouais. Parce que ça chiffre en milliards d'euros des bénéfices.
Ah oui, mais il faut rappeler que Peugeot était il y a quelque temps au bord de la faillite en fait,
oui.
Et que effectivement l'État a dû voler à son secours et puis qu'ils ont dû finalement ouvrir leurs actionnaires. Et donc c'est ça qui est terrible, particulièrement dans l'industrie automobile, c'est qu'en fait il y a une telle volatilité. Bon, il faut expliquer aussi que c'était la crise hein, qui est passée par là du marché, que effectivement il y a une anticipation, grosso modo, des futurs changements éventuels. Hein. Voiture hybride, voiture, voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire
Il y a aussi
Pinky, les Inroc, et que visiblement, le problème de cette convention, de cette de ce liste,
enfin, ce c'est pas
licenciement, c'est pas licenciement, c'est le un départ, non c'est le départ conventionnel, collectif, une rupture conventionnelle collective. C'est qu'en réalité le rapport de force reste en faveur
du patron.
Visiblement du patron, oui. Et donc on peut largement craindre que dans certaines entreprises où le rapport de force est quand même où le management, où il y a quand même un chantage au licenciement, ça peut être ça, ou un plan social, que tout ça tourne finalement en faveur du patronat. Donc c'est vrai que la question, c'est qu'au fond, est-ce que ce type de facilitation, finalement, ça facilite, ça économise de l'argent, et puis ça évite le plan social. Mais on sait très bien que les sociétés vont pas arrêter de faire des plans sociaux pour ça, ou plutôt désormais ça sera des licenciements collectifs, ou des ruptures conventionnelles collectives. Grosso modo, hein, demander l'agrément du salarié pour partir, c'est mieux.
Oui, mais il était Madame Pénicaud dans on l'a pas entendu dans l'émission, mais dans la France Inter hier, elle disait bien à demeurant que dans la rupture conventionnelle collective, ce serait un accord entre salariés et patronat. Et que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de licenciement collectif.
Ouais, mais alors là, dans le cas de PSA, justement, un jour de négociation. Donc, je veux dire, il est fort à parier que c'est ou ça ou le plan social, dans certains cas. Donc, à tout prendre, hein, voilà, qu'est-ce qui sera plus avantageux? Il y a beaucoup de... Donc, c'est vraiment toute la question. Et alors, j'ajoute qu'il y a un contrôle. Donc, comme le disait Muriel Pénicaud, de la directe, en principe. Bon, mais dans l'état où est l'inspection du travail aujourd'hui, et voilà, les décisions qu'elle prend, c'est une vraie question de savoir si elle remplira son rôle.
Alors, il y a peut-être un jeu des syndicats qui aurait peut-être pu marcher. C'est effectivement, tu dis, c'est ça ou le plan social? Ben oui, plan social. Et puis, on verra bien ce que dit le patron, parce que le patron, il fait des bénéfices, et puis ça marche, hein, puisqu'il a des carnets de commandes qui sont remplis. Plan social, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui bosse. Donc,
Sauf que là, c'est sur le volontariat. Donc c'est ça qui fait la grande différence finalement. C'est-à-dire qu'on préfère finalement demander aux gens qui préfèrent partir ou qui en ont peut-être assez, plutôt que d'imposer à ceux qui veulent éventuellement rester. C'est le seul petit avantage. Cela étant dit, moi je suis convaincu que dans le cas de Peugeot, ce sera quand même la collectivité qui paiera, parce qu'à la fin c'est la collectivité qui paye les plans sociaux en droit au chômage, justement, qui prépare en fait la retraite, et que il est quand même particulièrement scandaleux que le patronat ou que le représentant du MEDEF vienne expliquer qu'en plus les gens qui ont été virés par ces plans sociaux soient contrôlés de façon journalière ou hebdomadaire. C'est vraiment scandaleux.
Alors, il y a juste un point que j'aimerais revenir quand même, Ludo, tu vas peut-être me contredire, mais ou Christophe, juste un point, c'est que les retraites comme les subventions, le chômage, c'est quand même dû. C'est-à-dire que nous, sur notre salaire net, on paye pour ne pas travailler et pour être en retraite. Donc c'est du salaire qui déjà est à nous, qu'on nous reverse.
Alors voilà, c'est tout les limites.
Je n'ai pas à chercher du travail pendant la période où on me verse.
Alors,
ce salaire.
C'est tous les problèmes du système mutualiste. C'est-à-dire que c'est un système qui est assurantiel en quelque sorte.
Absolument.
C'est une assurance en fait contre en cas de perte d'emploi, mais qui fonctionne sur la solidarité. Et c'est le fameux argument que prend le patronat pour dire ah mais c'est la solidarité qui doit primer en premier, et donc vous êtes donc dans l'obligation. Même en tant que chômeur, hein, vous êtes dans l'obligation de faire des recherches actives d'emploi, même si ça concerne 7% de chômeurs en réalité, et
oui,
pas 14%,
bien sûr,
visiblement.
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est réellement la marge.
Oui.
Mais effectivement, c'est une façon de... Parce qu'en plus, il faut savoir une chose, hein, c'est que quelque chose qui est étonnant dans la période dans laquelle on vit, c'est que la crise est quand même passée par là. Et donc on aurait pu s'attendre à ce que justement les fameux gens découragés et qui ne sont pas comptés dans les statistiques du chômage augmente en fait avec la crise par découragement. Et là, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les étudiants, quand ils anticipent leur arrivée sur le marché du travail, ils préfèrent s'inscrire par anticipation au chômage, à l'ANPE, pour bénéficier des services de l'ANPE. C'est-à-dire qu'ils se considèrent eux-mêmes comme chômeurs et ils veulent bénéficier des offres d'emploi. Et contrairement à ce qu'elle dit, les augmentations, les inscriptions à Pôle emploi sont, et les réinscriptions après radiation sont très importantes. Comme quoi, il y a quand même des chômeurs qui considèrent que les services de Pôle emploi sont utiles.
Mais ils sont utiles.
Et qui ne s'inscrivent pas pour glandouiller puisque pour une 50% d'entre eux, ils ne sont même pas indemnisés.
Alors, j'en profite juste, je fais une parenthèse, j'en profite d'ailleurs pour dire un petit bonjour à Christian qui était avec nous dans cette émission pendant plusieurs années qui travaille à Pôle emploi et qui est en burn-out aujourd'hui parce qu'il est suppressérisé par son employeur, hein, par l'État en gros. Et donc, j'espère qu'il va mieux et qu'il, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou, on lui souhaite une bonne année également. Donc, Christophe, tu voulais intervenir sur le...
Oui. Oui, ben, rappeler un peu la réaction d'Éric Coquerel pour la France insoumise par rapport à cette fameuse rupture conventionnelle collective. Il a très bien résumé la situation puisqu'il disait récemment sur RMC, ben voilà, c'est la porte ouverte à tous les abus. Bien sûr que c'est une boîte de Pandore, hein. C'est, je remarque une chose, c'est des soi-disant faits pour créer de l'emploi et ça, on supprime. Ça résume très bien la situation.
Merci à tous. On va peut-être écouter une petite chanson et, puis, passer ensuite sur le travail public, enfin le public. Hein.
Allez mon vieux, faut tenir, hein. C'est pas le bal musette ici mon vieux, hein. C'est le carnaval. À Santiago de Cuba.
Et oui, ce soir c'est festival, Barbara en premier, Jean Ferrat en second, on lui, voilà, donc un grand artiste, hein, on l'adore ici. Donc on reprend cette émission, c'est l'émission mode d'emploi bien sûr des chômeurs et précaires sur Fréquence Paris Pluriel, la radio des sans-voix. Donc merci Ludo et Christophe d'être ici encore avec moi ce soir.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Un petit coucou à Claude derrière à la technique. On va parler maintenant peut-être, si tu veux bien, Ludo, de ce qui se passe sur le service public, parce qu'apparemment il y a un ancien ministre à une certaine époque reculé qui parlait du dégraissage du mammouth, hein, c'était des questions nationales, mais apparemment aujourd'hui c'est le dégraissement de tout. Les services publics, apparemment.
Oui, alors donc je précise que je m'appuie pour cet article sur un article de Mediapart qui est écrit par Romaric Godin et donc je le dis parce que si vous n'êtes pas abonné, vous n'y avez pas accès et il est vraiment extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est très bien documenté et donc effectivement en fait la réforme des services publics, enfin du fonctionnement de l'État, ça fait bien 15 ans que voilà. Que ça a lieu hein, depuis on a tous en mémoire les différentes
périodes etc.
Bah, surtout les différentes lois, la LOLF etc. Et ce qui s'est passé quand même, il y a un truc qui s'est passé entre temps, c'est la crise et bah, la crise, vous savez ce que ça provoque, c'est-à-dire une chute des recettes tout simplement. Et donc malgré tout, malgré le fait que bon, au début de la crise, on est légèrement, mettons, évité hein, de trop dégraisser et de trop, et surtout hein, de trop baisser les impôts parce que bon, voilà, ou de trop augmenter les impôts. Malgré tout, la réforme de l'État, c'est quand même poursuivi à travers la baisse des effectifs, le non renouvellement des fonctionnaires, 1/2. Et on arrive en 2017, après 10 ans de croissance à plat, où Monsieur Macron, en grand magicien qu'il est, nous annonce une politique de réduction des dépenses publiques massive, telle qu'on n'en a jamais connue. Alors, le problème, c'est que ces réformes ont déjà eu lieu, et que, finalement, par rapport aux autres pays européens, on a freiné, en fait, en quelque sorte, les dépenses, malgré la baisse des recettes, de façon plus importante que dans certains pays, et que selon France Stratégie, on est, en termes d'effectifs et de moyens de l'État, dans la moyenne européenne, et on est en dessous, en réalité, évidemment, de la Suède, voilà, et de pays de ce type. Mais, peu importe, à M. Macron, qui est réellement dans une optique vraiment libérale, c'est-à-dire exonérer les plus riches, donc creuser le déficit, et réduire, dans le même temps, les dépenses de l'État. Et donc, le plan... enfin, j'allais dire le plan social, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire l'abandon des missions qui concernent l'État risque d'être massif dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années. Mais heureusement, Macron a déjà sa solution, et sa solution, c'est le service privé. Et donc, il a mis sur pied une commission qui ressemble trait pour trait à la commission Attali, où il a écarté une bonne partie, en fait, de sa propre administration, on va dire, hein. C'est-à-dire de gens...
Bercy et compagnie. Quoi.
Alors, Bercy, non, mais non. Par exemple, la Banque de France n'y est pas, l'INSEE n'y est pas.
La Caisse des dépôts n'y est pas.
La Caisse des dépôts n'y est pas. En revanche, il a convoqué des...
Grands patrons des 40.
Ah non, bah non, des, oui, mais non. En fait, effectivement, mais des énarques qui ont fait un détour par et qui sont toujours des banquiers privés et qui sont effectivement très appâtés par l'investissement dans l'économie française, dans l'infrastructure des économies françaises, et qui sont déjà actifs sur la question alors du gaz, des autoroutes, etc., etc. Et donc qui va probablement produire un rapport en mars 2020 qui sera à copier-coller de de la commission Attali, mais en pire. Et on ne peut dire que son effroi de constater finalement qu'on a un hypercapitalisme bancaire qui pilote
l'économie
de
française.
Réduction l'économie française, mais la politique de réduction de d'effectifs ou de périmètre de l'État à des fins à des fins mercantiles, bien entendu. Donc on va réellement vers une privatisation des missions, de certaines missions de service public.
Et alors juste me dire, est-ce que tu as peut-être que tu n'as pas les chiffres, mais ça pourrait concerner combien de personnel, ce genre de...
Ce qui concerne les personnels, c'est ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est les départs à la retraite qui sont pas remplacés.
Ou ça c'est un sur deux,
voilà,
déjà.
Et c'est le recrutement qui se tarie.
D'accord.
Voilà. Mais là, il s'agit de missions qui peuvent effectivement, je sais pas, demain ça sera peut-être EDF. Par exemple, il y a déjà une entreprise privée. C'est des concessions sur les autoroutes qui ont déjà été faites. Et puis, il y a un certain nombre effectivement de missions que l'État aura de plus en plus de mal à assumer. Donc l'exemple typique, c'est Pôle Emploi. On en parlait tout à l'heure. Mais il y en aura d'autres. L'enseignement.
Ce qui sous-entend que ceux qui sont sur leur poste de travail feront le travail de deux ou trois personnes au lieu de.
Donc c'est déjà le cas pour, en tout cas, actuellement, la maîtrise, les cadres, en fait, dans la fonction publique qui sont déjà pressurés comme des citrons.
Ben merci messieurs, merci Ludo, merci Christophe. Vous avez été, comme d'habitude, formidable dans cette émission. moi de même, peut-être. Cette émission se termine. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir fait cette émission avec moi. Merci messieurs, dames, d'avoir écouté, si vous l'avez écouté. Je tiens à rééditer mes bons voeux pour l'année 2018 à tous ceux qui nous écoutent et même au-delà.
Dans un instant, c'est Stress et Mécano.
Merci de l'avoir annoncé. N'oublions pas que la mission Mode d'emploi continue la semaine prochaine avec une autre équipe et que nous, on revient dans un mois, comme d'habitude.
Et la semaine prochaine, c'est Attaque.
Voilà. Donc, restez vigilants et ne lâchez rien. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.
I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning.